c'est vrai, chaque fois qu'on arrête une guerre, bah, c'est pas Noël souvent, en ce moment. Et dans la première lecture, on nous parle du peuple qui est dans les ténèbres et qui a vu se lever une grande lumière. C'est le peuple qui est en exil, hein, qui a été pris de force, emmené de Palestine jusqu'en Irak, avec la Mésopotamie d'époque, Babylone, Bagdad aujourd'hui. C'est le peuple qui souffre, le peuple qui s'interroge. Et à ce peuple, Isaïe annonce la naissance d'un Messie 500 ans avant. Il nous dit que ce Messie, il sera le prince de la paix. Il y a plein d'autres titres, mais c'est vrai que vu les circonstances internationales, c'est le titre qui a le plus résonné dans mon oreille en disant mais est-ce que tu as raison de croire? Est-ce que vraiment il est le prince de la paix si on regarde ce qu'on voit autour? Je n'oublie pas que du temps de Jésus, ce n'était pas plus simple. Le peuple était occupé par les Romains et Marie et Joseph ont été munis de force sur les rues. Ils ont été déplacés pour aller se faire recenser. Comme aujourd'hui, on voit ce peuple d'Asie être déplacé et une violence sans nom. Comme la violence qui a eu lieu auparavant était sans nom, mais répondait aussi à une violence latente depuis des années. Jésus n'est pas un Messie magique, n'est pas quelqu'un qui nous fait échapper à la condition humaine. Il a vraiment pris cher dans notre monde qui vit. Il n'a pas tout résolu par miracle, par magie. Quand je regarde ce qui est un peu lourd en ce moment, j'ai nommé Israël évidemment, il y a plein d'autres pays qui sont en guerre, des guerres dont on parle moins parce qu'elles intéressent moins. Mais nombre de vos peuples souffrent, ne m'en dit rien. Nombre de vos familles souffrent. Et les conséquences, c'est que ici, il y en a qui aimeraient bien qu'on se ferme entre nous. La dernière loi sur l'immigration qui est en train d'être votée n'est certainement pas digne de notre pays. On n'est pas si digne d'un pays qui se revendique d'une tradition chrétienne. Je vois que du temps de Marie et Joseph, ce n'était pas simple non plus. Et ça nous oblige, non pas de ma part, rassurez-vous, je crois encore, mais pas forcément dans la manière dont les gens croient. Nous rêvons d'un Dieu qui fait tout par magie, qui fait tout par miracle, qui explique tout. Or, quand il naît, il se fait tout puissant dans sa vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable ? Un enfant tout petit qui naît sur la route en fait, qui n'a pas de place pour l'accueillir, n'a pas de place pour vous à l'auberge, et qui naît au milieu des animaux, qui naît au milieu des bergers. Pour moi, le mot berger a pris un sens très fort depuis que j'ai passé 5 ans à Madagascar. On tournait de la paroisse d'église en église à pied, parfois on faisait 30 km pour célébrer une messe. Et dans un des coins, il y avait toujours des troupeaux juste sous la fenêtre où j'étais. Et c'était des enfants en maillot, même par 3 degrés. C'était ceux qui n'avaient pas de parents. C'est ceux qui n'avaient rien et qui mangeaient en regardant des troupeaux. C'était les plus pauvres, qui n'avaient pas l'école. Eh bien, la manière dont Dieu vient, c'est de venir au milieu d'eux, de s'identifier à eux. C'est pour nous un sens extrêmement fort. Il a vraiment pas peur, Dieu, d'habiter notre monde tel qu'il est. Ce qui me touche aussi, c'est qu'il aurait pu venir tout seul, magiquement. Et il a besoin de Marie. Il a besoin de femme de 15-16 ans. Ose d'accueillir en elle. Ose dire, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il y a eu aussi besoin que Joseph fasse confiance à Marie, ce qui n'est quand même pas banal. Et que Joseph laisse tous ses plans être transformés, se fiche du qu'en dira-t-on et accueille Jésus. Et aujourd'hui, Jésus a besoin de chacun de nous pour mettre a besoin de nous. Imaginez que vous ne soyez pas venu ce soir. Qu'est-ce qu'il y aurait comme signe, au-delà de la violence apparente, il y a un Dieu d'amour qui nous aime, qui nous appelle, qui fait confiance à chacun d'entre nous. Quel signe aurait-il? Vous avez vu qu'il y a cette phrase où on fait des mots à trop, vous savez, c'est pour fixer l'attention. Il faut trouver les lettres qui manquent. En fait, c'est la coque et pas les... À vous d'en être les témoins. Et on aura le chant tout à l'heure. Christ est vivant, il est ressuscité. Alors, Blaise vient voir, mais à Noël, on va chanter ça. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais si Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas là en train de faire de Noël. C'est vraiment important. Et quand on fête Noël, on ne se souvient pas seulement de l'événement. On croit, on affirme que Jésus n'en finit pas de naître aujourd'hui, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il se dit aujourd'hui, qu'il compte sur nous aujourd'hui, qu'il nous appelle aujourd'hui. Alors, au fin octobre, il y a eu un grand rassemblement à Lourdes qu'ils ont appelé Kérigma. C'est un mot que vous employez tous les jours, bien sûr. Et le point le plus important de Kérigma, c'est qu'il fallait qu'on apprenne à dire la foi avec les mots de tous les jours que tout le monde comprenne. D'où le mot Kérigma. Kérigma, c'est un mot grec. C'est pour représenter le noyau de la foi. Quand Pierre a rencontré le ressuscité, qu'il a reçu la force de l'Esprit Saint, il sort, il n'a plus peur, il va dire, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Il ne peut plus se taire. Et des hommes, des femmes, depuis 2000 ans, ont été pour lui. L'Église nous alerte en disant, autour de vous, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ont des parents qui n'ont pas voulu les baptiser, ils choisiront. Ils choisiront. Et puis tout d'un coup, ils se mettent en route et ils manquent de baptême. On assiste un peu partout à de nombreux adultes, adolescents qui viennent dire j'aimerais connaître Jésus. Ceux qui étaient là le 3 décembre ont accueilli ceux qui demandent le baptême le mois prochain ou l'année d'après. Et chacun s'est présenté. Et il a dit comment Jésus avait transformé sa vie, pourquoi il demandait le baptême. Et dès Noël aujourd'hui, s'être attentif à cette recherche d'hommes et de femmes autour de nous. Et c'est un appel à être capable de témoigner de façon simple. Aujourd'hui, un jeune m'a apporté sa lettre à l'évêque. Parce que quand il vient de baptiser, il doit écrire une lettre à l'évêque. Je l'ai appelé parce que quand j'ai lu la lettre, je trouve ça tellement extraordinaire. Je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à en lire des morceaux? Il dit, oui, à condition qu'il n'y ait pas mon nom. Donc, je n'ai pas trop donné de détails. J'ai coupé beaucoup, c'est dommage pour vous. Mais je vous le dis. En quatrième, troisième, mes amis me parlaient de Jésus et de ce qu'il pourrait faire, de ce que Jésus pourrait faire si je le laissais entrer dans ma vie. Ainsi, j'ai commencé à me poser des questions. Mais c'est seulement en seconde que j'ai fait le premier pas suite au décès de ma grand-mère qui était très croyante. Je me suis demandé qu'est-ce qui intéressait ma grand-mère chez Jésus. Alors j'ai demandé à un ami de m'emmener à l'église, Jean 23, pour la semaine sainte de cette année, et pour Pâques, pour découvrir ce qui animait ma grand-mère. Arrivé là-bas, je me suis senti bien, complet, comme si pendant toute ma vie, il me manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Mon cœur s'est serré, je ressentais une grande joie, et depuis, je souhaite simplement m'approcher du Seigneur et m'offrir à lui comme il s'est offert sur la croix pour nous laver de tout péché. Depuis, je chemine avec d'autres et je prépare le baptême, la communion et la confirmation. J'ai beaucoup coupé, par discrétion. Quand je doute beaucoup, tout près que je suis comme vous, j'ai des questions, je suis rassuré parce que le pape François nous dit un croyant qui ne doute pas, c'est pas un croyant. Bien sûr, ça vaut au courant. Quand je dis ça, je me dis quand même c'est pas banal. Et je dis, ça me parle exactement de ce qu'on célèbre ce soir. Un jeune qui ressent un appel dans son cœur, qui ne sait pas trop quoi en faire, et qui va pouvoir l'identifier d'abord parce que d'autres ont témoigné. Je pense beaucoup ce soir, je ne connais pas sa grand-mère, mais je vous propose qu'on prie pour elle. Cette femme, je l'imagine, comme je connais beaucoup de grands-parents, mes enfants, mes petits-enfants, ils n'ont pas été catéchisés, pas baptisés, ça n'a rien. Mais ça me soucie. J'imagine cette grand-mère toute sa vie, préoccupée par ça, mais vivant sa foi, aimant, témoignant. Mais le jour où elle meurt, et elle n'a pas pu voir, avec ses yeux humains, le miracle dans le cœur de son petit-fils. Le jour où elle meurt, son petit-fils se questionne, mais qu'est-ce qui habitait dans la mer? Pourquoi elle allait perdre son temps à l'église? Pourquoi elle avait cet amour, cette affection pour nous, sa vie venait d'où? C'est souvent dans les enterrements, quand j'étais jeune, que je leur mets cette petite question. Vous vous êtes demandé d'où ça venait, votre grand-père, votre grand-mère, cet amour dont vous nous parlez. Ah, bon, je crois très bien chez moi, comment elle avait cette parole. Je peux bien prier tout seul de mon côté. Mais si nous ne nous rassemblons pas, si nous n'accueillons pas ensemble la parole, si nous ne communions pas ensemble, comment nous complètement reporter le Christ? Et c'est lui qui devient apôtre pour nous. Voilà, je vous invite chacune ce soir à vous demander, dans ce monde qui a ses obscurités, dans ce monde où certains sont tentés par l'antisémitisme, ils vont généraliser, tous les juifs, c'est l'établir le ban. Nombre de juifs souffrent autant que nous de voir les images qu'ils voient. Hein, tous les musulmans, ou tous les gazamites, c'est le Hamas ban. Et la solution, c'est interdisons les étrangers. D'ailleurs, moi, je me retrouve au chômage tout de suite ici. Hein. Je me retrouve tout seul. C'est de voter d'extrême droite, regardez le nombre de pays qui sont en train de mettre l'extrême droite à leur tête, comme si on avait oublié le fascisme, comme si on avait oublié l'Hitler, comme si on avait oublié le Soudan, et j'en passe. Je souhaite que chacune, on se rende compte que fêter Noël, c'est s'engager à être témoin du prince de la paix. C'est-à-dire que partout où nous sommes, nous travaillons par notre manière d'aimer, de regarder, d'arrêter les disputes. Des fois, les disputes, elles gagnent même notre paroisse, même ma famille. Jésus, il vient chez les hommes et des femmes très réelles, très humains. Mais à chacun, il dit, est-ce que tu es prêt à m'accueillir? Est-ce que tu es prêt à être signe de mon amour? Est-ce que si d'autres jeunes, comme celui dont je viens de lire la lettre, partent tous et qui partent, ils pourront trouver des gens qui lui permettent de trouver Christ? Est-ce que tu seras un berger qui va voir ce qu'il raconte les bonnes nouvelles de Jésus? Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite pour Noël, qu'il y ait tous des bons bergers.